son micro. Donc Vendorage se trouve en présence aujourd'hui d'Alexis Michalik, qui va présenter très prochainement un nouveau spectacle, un spectacle qui a été un petit peu rodé au Théâtre 13, si ma mémoire est bonne, mais qui va démarrer à la rentrée à la Pépinière, c'est ça?
Tout à fait.
Alors, un exercice un petit peu difficile pour démarrer, sachant que ce spectacle, je ne l'ai pas vu, nos lecteurs et auditeurs ne l'auront pas vu non plus, vraisemblablement avant que de découvrir cette interview. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette nouvelle création? Il semble que vous soyez parti sur quelque chose d'assez différent de ce que vous aviez fait sur les trois précédents spectacles.
Ouais, je quitte le domaine du théâtre historique pour parler de la prison. Enfin, en tout cas, mon histoire se déroule en prison. Il se trouve qu'il y a 2 ans de ça, je suis allé en prison parce qu'on m'a remis un prix pour un court-métrage que j'avais réalisé. Et au cours de ce festival, il y avait un jury de détenus qui remettait un prix. Et donc, on a eu l'occasion, moi et l'actrice du film, d'aller rencontrer une dizaine de détenus au centre de Moulins, qui est donc une prison centrale. Et c'est-à-dire que c'est pour les peines longues supérieures à 8-10 ans, on va dire. Et donc, on s'est retrouvés pendant 2 heures à discuter avec ces détenus, et c'était passionnant. On a parlé de cinéma, on a parlé de plein de choses, et au bout d'un moment, on a un peu commencé à dire « Mais ça fait longtemps que vous êtes là ». Et on s'est rendu compte que ça faisait des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certains. Et à partir de là, moi je suis sorti et je me suis dit « Tiens, c'est quand même étonnant cette rencontre d'un autre monde, quoi. J'avais jamais eu de rapport particulièrement avec la prison avant. » Et voilà, l'idée a mûri et 2 ans plus tard, c'est devenu un spectacle que j'ai proposé d'abord à Colette Nucci pour la réouverture du Théâtre 13, qui avait fermé pour travaux pendant 2 ans et demi. Et ensuite à Caroline Verdu pour La Pépinière, et qu'elle a accepté de programmer.
Génial.
Voilà. Ça s'appelle Intramuros.
Intramuros.
Et de quoi ça parle? Ça parle d'un metteur en scène, un peu sur le retour, un peu has-been, un peu loser, qui vient faire son premier cours de théâtre en prison, qui vient donner son premier cours de théâtre en prison. Et à sa grande surprise, ne se présente que 2 détenus. Et après quelques réticences, il va accepter de donner quand même son cours. Donc, dans cette salle, il y a les 2 détenus, un jeune et un plus âgé. Et il y a une petite assistante sociale dont c'est vraiment les premiers pas. Et il y a une femme qui est une actrice que le metteur en scène a ramenée et qui est également son ex-femme. Et ces 5 personnages vont tenter de suivre un cours de théâtre. Et après, il va se passer plein de choses.
On imagine. Alors c'est toujours le même principe, auteur et metteur en scène, dans cette création-là, à nouveau.
Ouais, même si là j'ai travaillé de manière un peu particulière, ce que j'avais fait pour le début du Porteur d'Histoire, et qui me manquait un peu, c'est qu'au lieu de tout écrire à la table, en fait j'ai écrit l'histoire, scène par scène, mais j'ai pas dialogué entièrement cette histoire. Et ensuite, c'est avec les acteurs qu'on a créé les dialogues au plateau, en fait. C'est-à-dire que je les ai fait improviser...
Comme ça se fait parfois au cinéma.
Comme ça se fait parfois au cinéma, ouais, ou au théâtre d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je les ai fait improviser sur des scènes dont l'histoire était déjà là, où ils savaient où ça allait. Les personnages, je leur avais déjà donné. Mais des dialogues sont nés, et donc ça rend... disons que ça me permet de créer ce spectacle en me basant sur la mise en scène et la situation, et non pas sur le dialogue et le texte. Et le dialogue et le texte viennent s'ajouter à la mise en scène et à la situation plutôt que l'inverse. Et donc c'est passionnant parce que ça le rend très vivant et en même temps comme si il était un peu sur un fil en permanence. Mmh. Et une fois qu'on a fini d'improviser, ben évidemment ça devient un texte que je réécris par la suite et qui est figé pour la suite de la création. Mais c'était un processus assez passionnant.
Ok. Alors c'est toujours ce principe... de demander une implication un peu particulière et pas si traditionnelle que ça aux comédiens. Je pense notamment à la manipulation de la scénographie sur les précédents spectacles.
Ce qui est sûr, c'est que pour moi, un acteur au plateau, la seule chose qui va l'embêter, c'est l'ennui. C'est-à-dire, un acteur, si on lui dit « va en coulisses pendant 1 heure et reviens juste pour jouer ta scène », ça va l'emmerder, quoi. Alors que si on lui dit « écoute, pendant 2 heures, tu vas jouer », un acteur sera toujours galvanisé par cette perspective. Et de spectacle en spectacle, je me suis rendu compte que voilà, moi le grand fléau pour moi de la mise en scène, c'est quand un spectacle s'arrête. C'est-à-dire quand on a tout d'un coup une scène qui s'arrête, un rideau qui tombe, des machinistes qui viennent et qui déplacent un décor, un rideau qui se relève et la scène reprend. Pour moi, c'est plus possible d'avoir cet arrêt. Enfin, c'est pas que c'est plus possible, c'est que tout de suite, moi, ça me sort du spectacle. Mmh. Donc j'ai besoin d'avoir une espèce de continuité dans la narration. Et pour avoir cette continuité dans la narration, il n'y a qu'une seule solution, c'est de changer le décor à vue, tout en continuant à jouer. Et donc de chercher des astuces hein, pour que l'attention du public soit toujours continue et mobilisée, et que pendant que la scène continue, les autres acteurs vont venir déplacer le mobilier, ils vont venir changer les costumes et les décors, et ça va créer, et ils vont se mettre tous au service de l'histoire. Et pour moi, ça peut fonctionner, en tout cas, ça peut fonctionner, ça fonctionne dans les spectacles, si chacun des acteurs est bien servi, c'est-à-dire que s'il a vraiment des choses à jouer, mais qu'à côté de ça, il a des chaises à déplacer, du mobilier, ceci et cela, comme une chorégraphie. À ce moment-là, si tout le monde est sur un pied d'égalité, et ben, ils vont tous se mettre en quatre pour que le spectacle soit beau, quoi. Et ça donne une impression de cœur et de troupe et de... Bon, après, j'ai rien inventé, hein. Mnouchkine a fait ça depuis 30 ans, mais là où Mnouchkine a fait ça avec une trentaine de comédiens sur une scène gigantesque, moi, je fais ça avec 4, 5 comédiens, parfois
plus. Et peu importe le format, à la limite.
En tout cas, dans une économie plus légère... Parce que c'est des spectacles qui vont tourner beaucoup, jouer longtemps. Donc, c'est un peu le principe, en fait.
Alors, vous avez anticipé ma prochaine question. Il semble que vous soyez clairement animé par un esprit de troupe. C'est ce qui vous fait vibrer au théâtre et peut-être même dans d'autres disciplines. Et même si on constitue finalement une nouvelle équipe à chaque nouvelle création, ça ne vous titille pas de posséder un lieu, soit au niveau de la direction d'un théâtre, ou même d'en être le propriétaire des murs, comme quelqu'un comme Eric Emmanuel Schmitt a pu le faire, parce que lui-même était très prolifique et a eu envie d'avoir son propre lieu.
Moi, ça m'a jamais vraiment tenté. Je suis un peu, j'aime la position d'être libre et d'être un électron et de pouvoir créer ce spectacle, voilà, qui est pas un, je vois pas lié à un lieu. J'aime cette liberté là. Mm-hmm. Aujourd'hui, je me dis que déjà, si jamais c'était une perspective, je l'envisage, hein, j'y pense, puisque c'est l'étape logique d'après en fait. Maintenant, je pense que ce serait un lieu qui devrait convenir déjà à la modestie entre guillemets de nos moyens et de nos spectacles, c'est-à-dire que c'est des spectacles que je pense humbles, hein, c'est-à-dire le porteur, c'est quelque chose de très léger dans la forme, intramuros aussi. Et donc, ce ne serait pas un théâtre énorme ou un bateau de privé. Moi, mis à part Edmond, je crois au théâtre à taille humaine. Mm-hmm. Et ensuite, je ne serais certainement pas tout seul, parce que c'est une énorme entreprise, mais avec mes camarades Benjamin Belcourt, Camille Thor... qui sont les producteurs des spectacles de chez Acme, il n'est pas impossible qu'un jour on s'empare d'un lieu. Et ce serait surtout, enfin, pour, non pas forcément pour mettre mes spectacles là, mais pour pouvoir encourager la jeune création et l'écriture contemporaine. Et voilà, et ce qui se fait aujourd'hui. Moi, je suis un enfant d'Avignon, c'est-à-dire que je suis né dans le Off. J'ai découvert un peu le panorama du théâtre dans le Off. J'allais évidemment au théâtre avant, mais l'économie théâtrale que je connais, elle est issue du festival Off. C'est-à-dire que c'est une économie raisonnée.
De bout de ficelle.
De bout de ficelle, mais...
Et qui oblige à une certaine créativité.
À une certaine créativité, à une certaine inventivité, et réaliste économiquement. C'est-à-dire que c'est des spectacles qui doivent avoir du monde dans la salle et qui doivent chercher un théâtre qui leur convient. Donc c'est pas un théâtre subventionné, c'est pas un théâtre qui se dit j'ai les moyens de mes ambitions, maintenant il faut que je dépense jusqu'au dernier centime. Le concept de départ, c'est il faut que je trouve une histoire à raconter qui soit suffisamment intéressante pour qu'il y ait du public dans la salle et qu'on puisse payer les comédiens quand on arrive à la fin du festival. Or, de ce festival se dégage une inventivité, une créativité énorme. Et tout le monde, la plupart des jeunes comédiens, chefs de troupe, auteurs, metteurs en scène, font leurs armes dans le Off à Avignon. Et j'aimerais bien qu'il y ait un lieu qui vraiment soit dédié à leur, à la continuité de cette créativité sur Paris.
Oui, parce que ça relaie pas forcément, justement.
Pas forcément, parce qu'Avignon, c'est des salles, la majorité des salles du off, on est autour de 100 places, on est sur du 100, les plus grandes salles, elles font 200 places, pas maximum. À Paris, un bateau de privé, il va faire 400, 600, 800, 1000. Y a pas beaucoup de salles à Paris qui font entre 200 et 300 places. Il n'y en a pas tant que ça. Or, je pense que ce serait super d'avoir un lieu qui serait dans ces dimensions-là et qui puisse être le relais du Festival Off.
Et vous en avez jamais parlé avec Olivier P?
Bah lui, c'est plutôt lui.
Oui, mais il n'empêche.
Il n'est pas vraiment sur le même, sur les mêmes problématiques. Même s'il fait un travail de défrichage de compagnie et qu'il n'est pas du tout sectaire.
C'était plutôt à ça que je pensais, oui, effectivement.
Mais c'est pas les mêmes compagnies. Après voilà, moi je pense pas à un lieu subventionné. Je suis allé à Lisière. On fait un théâtre de Lisière. On fait un théâtre entre qui est dans une économie de théâtre privé, mais qui emprunte au subventionné une esthétique, une mise en scène parfois, des éléments.
Une rigueur d'écriture aussi.
Une épure. Oui, même si l'écriture dans le subventionné, je trouve, n'est pas particulièrement... le subventionné, pour moi, c'est des metteurs en scène stars. C'est pas les auteurs qui sont stars. Hein. Le privé, il y a des auteurs stars. En subventionné, c'est des metteurs en scène stars. Donc c'est pas la narration qui prime. Hein. Subventionné, c'est un théâtre de création, d'inventivité. Enfin bon, après je dis ça, il y a de tout. Hein. C'est une grosse généralité.
Oui, c'est grand. Alors, autre point qui m'intéressait de voir avec vous, c'est cette habitude d'inclure des références à d'autres disciplines dans l'univers du théâtre qui est le vôtre. En l'occurrence, je pense notamment à des gens comme Méliès ou, de manière encore plus évidente, à Rostand dans la dernière création. Vous aimez bien mélanger un peu les genres. Ça vient de votre expérience au cinéma ou à la télévision, justement, le fait d'être vous-même un peu pluridisciplinaire.
Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mélange de la fiction et de l'historique. Ça, c'est sûr et certain, en tout cas dans les trois premières, où ça a été quelque chose qui s'est fait un peu par accident. Le porteur d'histoire, ça a été un peu un accident. Et ça a tellement fonctionné que j'ai continué dans cette veine et j'ai été encouragé par le succès du porteur. Je suis assez féru d'histoire. Et dans l'histoire, il y a un matériau inépuisable pour faire des spectacles. Après, voilà, ce que je fais, c'est que je fais pas du biopic, j'amène ma propre idée ou inventivité en utilisant des éléments historiques, comme Méliès, je vais le lier à Robert Houdin dans le Cercle des Illusionnistes, Alexandre Dumas, ce sera un personnage du porteur d'histoire, mais c'est pas le personnage principal et on raconte pas la vie d'Alexandre Dumas, et Rostand, c'est ma version très personnelle de la création de Cyrano, c'est plus pour réinventer Cyrano et imaginer comment Cyrano a pu être créé, que pour raconter
Il y a un hommage pour le coup.
C'est un hommage évidemment à Cyrano plus qu'à Rostand. C'est-à-dire Rostand, le personnage même, m'intéresse pas particulièrement. C'est surtout le moment où il crée Cyrano qui est passionnant. Donc je puise l'histoire et j'en fais quelque chose. Après, pour moi, évidemment, le théâtre, il doit y avoir de la musique, il doit y avoir de la vidéo parfois, il doit y avoir des costumes. C'est évidemment qu'il doit y avoir tout ce qu'on veut y mettre. En fait, aujourd'hui... Moi, je ne peux pas faire du théâtre en occultant le fait que le cinéma, que la télé, que la série offrent des choses hyper inventives et passionnantes. Je ne peux pas continuer à faire du théâtre en oubliant ça, sinon je contribue à donner au théâtre une image poussiéreuse et...
Esclérosée, oui.
Ouais, esclérosée. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de la vidéo partout, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais dans la narration. Et c'est là où je rejoins... Ce que vous dites, c'est que ma narration est clairement cinématographique. Le scénario des spectacles, avec des sauts temporels, avec plusieurs histoires qu'on suit en même temps, c'est très sériel, quoi. Ça ressemble beaucoup à de la série, dans ce qu'elle peut avoir de mieux en Amérique, quand on est perdu et qu'on se retrouve finalement. Donc là, oui, complètement. Le traitement de l'histoire est très cinématographique. Mais c'est tout simplement parce que je me mets au service de mon histoire et parce que j'essaye de faire en sorte que le public soit constamment baladé, constamment surpris, constamment, et que pendant 2 heures, il soit en alerte, quoi.
Piégé, surpris.
Voilà. Donc c'est ça.
Alors vos pièces sont, pour l'heure en tout cas, je vous souhaite que ça continue, de beaux succès populaires. et en même temps force le respect de la critique, ce qui n'est pas toujours garanti dans ce métier. Comment vous y parvenez? Vous redoutez un peu le moment où cet état de fait va s'inverser ou se ralentir? On y pense?
Non, pas vraiment. Non, non, pas vraiment. On n'y pense pas. Enfin, je suis plutôt dans un... Moi, je mets du temps dans mes spectacles et vraiment, j'avance pas à pas. J'ai pas de plan quinquennal. Le porteur, ça a été un accident. Avant le porteur d'histoire, j'avais déjà monté plusieurs spectacles. Je montais des classiques que je réécrivais, que je revisitais, qu'on avait déjà joué beaucoup. Le porteur a connu un succès énorme, mais avant ça, je montais déjà des spectacles. J'étais déjà créateur. Et puis, le succès d'un spectacle, c'est quelque chose qui n'est pas immédiat, c'est quelque chose qui est sur la durée. Mmh. À la différence du cinéma, où en 2 semaines, c'est bon, c'est réglé. Au théâtre, le porteur d'histoire, on l'a créé en 2011, on a fait 2 Avignon, on l'a créé au Théâtre 13 en 2012, ça a marché, mais ça restait le Théâtre 13, donc c'est une jauge limitée. On a commencé au Studio Deschamps en février 2013, ça a commencé à marcher, mais c'est 230 places, on ne peut pas savoir si c'est un tel succès. C'est seulement après 3 ans au Studio Deschamps qu'on se dit, ok, on vient de remplir pendant 3 ans une salle, c'est extraordinaire, et puis qu'on continue à la remplir au Bélier depuis 1 an et demi. Donc le succès se mesure sur la durée. Mmh. Donc c'est pas comme si c'est pas comme si les choses avaient changé du jour au lendemain, c'est venu vraiment... moi, j'ai mon premier Avignon, c'était en 2005, on est en 2017, donc j'ai fait 12 Avignons... J'ai tracté beaucoup de spectateurs. Il se trouve qu'il y a sûrement des spectacles qui marcheront moins, d'autres qui marcheront mieux. Qui sait ? On n'aura sûrement jamais de nouveau le même triomphe qu'avec Edmond. Mais, en quelque sorte, ce qui compte, c'est de se réinventer, de continuer à aller dans des endroits où on ne nous attend pas forcément. Après Edmond, qui est cette espèce de succès énorme dans le privé, avec des costumes, 12 acteurs, etc. C'était hyper jouissif et important même de revenir à un truc comme Intramuros, où c'était simplement 5 acteurs et un musicien dans une salle de répète pendant un mois. Et il n'y a quasiment rien comme décor. C'était important parce que ça pousse à l'inventivité, en fait.
Et à garder la tête froide.
Oui, la tête froide, ça va, c'est pas un problème. Non, vraiment, c'est d'arriver à continuer à chercher, à stimuler le nerf de l'inventivité, mmh. à stimuler, et pour ça, il faut aller dans des directions qu'on n'a pas forcément, où on ne nous attend pas forcément, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Moi, je suis au service d'une histoire, c'est-à-dire qu'une histoire, elle me parvient, soit parce que je parle à quelqu'un et il va me raconter sa vie et tout d'un coup je vais dire « Ah, c'est passionnant ça !» Soit parce que je lis un bouquin et puis tout d'un coup ça va me donner une idée, je vais dire « Ah, c'est génial !» Soit parce que je lis les journaux et qu'une histoire vraie va me parvenir, je vais dire « Ah, c'est... » Et de là naît le germe d'une histoire qui va continuer à grandir pendant 1 an ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 jusqu'à ce que tout d'un coup je me dise « Ça y est, j'ai mon histoire, je sais comment ça se termine. » Et à partir du moment où j'ai mon histoire, comme je suis mon premier spectateur, je vais y croire et à partir de là, je vais avoir la confiance qu'il faut pour la mener à un public, d'une mmh. manière ou d'une autre, que ce soit en tant que court-métrage, long-métrage, théâtre, comédie musicale, peu importe. Après, le public, il adhère ou il adhère pas. Mais moi, mon rôle, c'est d'être réaliste, comme je vous dis, c'est l'école d'Avignon, donc je vais jamais avoir une espèce d'accès de mégalomanie. De faire quelque chose qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins, en quelque sorte. Je ne vais jamais partir faire un spectacle en me disant, en fait, même plein, on perdra de l'argent. Je serai toujours réaliste et j'essaierai toujours de pas devenir fou, quoi. Et à partir de là, le risque est mesuré. Ça marche moins, ça plaira moins. Là déjà, je commence à expérimenter ce que c'est d'avoir eu non pas un succès, mais 3-4. Mm-hmm. Bah forcément, il y a un rapport différent dans la critique, dans le public. Il y a des fidèles, ils vont être déçus par ce spectacle, ils vont préférer celui-ci, préférer celui-là, ou aimer moins celui-là. Bon, c'est comme ça, mais c'est un luxe énorme déjà d'être dans cette position-là. Donc,
absolument. Voilà. Alors, il y a une chose qui peut, justement, en tout cas pour ce qui me concerne personnellement, mm-hmm. donner envie de revenir, mm-hmm. C'est que une chose transparaît de votre travail, que j'appelle moi plutôt un effet miroir, que je recherche beaucoup de manière générale dans l'art, c'est le rapport assez passionnel qui peut y avoir justement tant dans l'acte de création lui-même que chez les personnages que vous choisissez à qui vous choisissez de donner vie. Est-ce que vous pensez justement que c'est non pas une recette de cuisine, mais que ce pourrait être une explication justement à cette envie que peuvent avoir les gens de vous être fidèles et de revenir voir des spectacles les uns derrière les autres sans même trop savoir a priori de quoi ça va traiter?
Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est récurrent, c'est que je raconte des histoires qui sont résolument optimistes. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'aime sortir d'un spectacle en ayant envie de quelque chose. Vous voyez, juste en ayant une envie qui m'est donnée. Envie d'appeler sa famille, envie de voir des amis, envie de voyager, envie de dire je t'aime à quelqu'un, envie de vivre, envie de me dépasser, en tout cas envie. C'est difficile pour moi de faire un spectacle où en sortant, le public est plombé, quoi. Se dit bon bah il n'y a plus d'espoir, on a assassiné l'espoir. Moi le théâtre pour moi n'est pas le théâtre, mais en tout cas le théâtre que je défends et que j'essaie de faire, c'est quelque chose d'optimiste, quoi. C'est quelque chose qui dit la vie est dure, vraiment pour faire une philosophie de bas étage, les gentils gagnent à la fin, quoi. Et quelque chose de parce que j'y crois, parce que voilà, je pense que concrètement, moi je viens d'un milieu modeste et que Avignon, je me suis fait moi-même, avec évidemment l'aide de plein de gens que j'ai rencontrés, j'ai toujours su bien m'entourer, mais au final, c'est le message qui transparaît dans les pièces. Et quand je m'attache à Dumas dans Le Porteur, ou à Méliès, c'est des gens qui y croient et qui y retournent et qui continuent à y croire jusqu'à la fin. Il y a toujours une sorte de message d'espoir, de
Il y a une vraie fièvre optimiste pour le coup, c'est pas des gens tièdes, c'est des gens
non,
qui...
Non, bien sûr, c'est des gens passionnés, mais parce que pour moi la création ne peut pas être dépassionnée, il faut en avoir envie, il faut... Moi, quand je me retrouve en création, je me sens au-delà de moi-même, il y a quelque chose de merveilleux. Quand je suis en répétition, j'oublie de manger, j'ai pas besoin de dormir, il y a quelque chose de... Le fait de créer, c'est exactement...
Qui transcende un peu.
Bien sûr, ça transcende complètement. Mmh. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et donc, l'aboutissement de ça, quand derrière, ça trouve son public et que les acteurs sont contents et que ça joue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de mise en abîme du théâtre dans mes spectacles, d'ailleurs, évidemment. Il y a toujours une... Mais comme Shakespeare faisait aussi, il y a toujours... Le théâtre est présent dans les pièces de Shakespeare. Il y a les comédiens qui jouent. Il y a toujours un rapport. Le monde est un théâtre. Il y a des innombrables différences. Donc il y a une sorte de métathéâtre permanent, et dans Intramuros aussi, puisqu'il vient donner un cours de théâtre. Bon, je ne dis pas que ce sera tout le temps comme ça, il y a un moment où j'arrêterai de parler du théâtre aussi, mais oui, j'aime bien les... J'aime pouvoir donner envie aux gens de quelque chose. Et ce n'est pas la même envie, hein, Intramuros, c'est jamais la même envie. Edmond, Intramuros, qui jouait en même temps, ce n'est pas les mêmes applaudissements, ce n'est pas les mêmes réactions en sortant. Il y en a une qui est beaucoup plus émouvante et triste, mais jolie, mais belle, et finalement, il y a toujours une ouverture.
Ok. Et alors justement, à force de créer des pièces qui deviennent des succès, elles se jouent toutes en même temps sur l'agglomération parisienne, vous finissez pas par vous auto-concurrencer, ou justement vous misez sur cette envie du public de découvrir les pièces les unes derrière les autres quand ils ont apprécié la première?
Non, bah, je dirais déjà que chaque spectacle est un peu indépendant, parce que concrètement, c'est ce que je réponds quand on me dit, mais quand je dis que je fais un théâtre sans tête d'affiche, et qu'on me dit, mais la tête d'affiche, c'est vous aujourd'hui. Et je dis, mais moi, je ne suis pas la tête d'affiche, en fait, la tête d'affiche, c'est le spectacle. C'est-à-dire que si je fais un spectacle qui est mauvais.
Michel, qu'on s'en fout.
Oui, évidemment, il y a des gens qui viendront pendant une semaine, et heureusement, ils viendront pendant une semaine, et puis après, le mot passera que c'est vraiment mauvais, et puis la fréquentation sera terrible. Les gens ils viennent, ils voient un spectacle qui leur plaît, ils sortent, ils en parlent, et c'est comme ça que ça continue. Et c'est le principe d'Avignon, hein, c'est le bouche à oreille avant tout qui prévaut, quoi. Et quand on va voir les spectacles de Mnouchkine, évidemment qu'on va voir Mnouchkine, mais c'est parce que ces spectacles sont merveilleux qu'on en sort en disant il faut absolument aller le voir, et que les générations se succèdent pour y aller. Donc je pense qu'ils sont indépendants. Le porteur d'histoire, les gens qui sortent du porteur d'histoire et qui ont aimé, ils vont parler du porteur d'histoire à leurs amis. Et le cercle, c'est pareil, et Edmond, c'est pareil, etc. Maintenant, quand une pièce fonctionne autant qu'Edmond, ça déborde sur le porteur d'histoire. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il y a 700 personnes par soir qui vont voir Edmond et qui en sortent en disant à leur pote « j'ai envie de voir autre chose », bah, ils n'ont pas trop de mal à remplir une salle de 200 places dans laquelle joue le porteur. Donc c'est plutôt des vases communicants en termes de fréquentation
ouais.
Plutôt qu'une confrontation directe. Maintenant, voilà, on verra, là, le cercle va reprendre, Intramuros reprend l'entrée, on verra bien. Mais pour l'instant, en tout cas, Mais après, voilà, là, je pense que j'arrive quand même à la limite, trois spectacles en même temps, c'est suffisant, quoi. Et au-delà, ça commence à faire beaucoup, quoi.
Alors, pour revenir un peu à Intramuros, est-ce que vous pouvez... nous donner quelques éléments sur la direction d'acteurs, sur la scénographie. Est-ce qu'on va retrouver un peu les gimmicks michalikiens,
ouais.
Ça se dit.
Ouais, ça se dit, oui. Oui, il y a toujours des portants sur scène et un mur au fond. Hein. En fait, le mur, c'est né presque par accident, encore une fois, c'est parce que le porteur d'histoire, on l'a créé d'abord dans une forme courte au Ciné 13. Et au Ciné 13 Théâtre, je voulais qu'ils écrivent à la craie sur le mur du fond. Mmh. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ça a été intégré dans la mise en scène. Quand on est arrivé au Bélier à Avignon, dans la petite salle, ils ont continué à écrire sur le mur du fond, à la craie. Et puis quand on a attaqué le théâtre d'après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mur du fond sur lequel on pouvait écrire. Et donc on a bien été obligé d'en construire. Donc on a construit un mur sur lequel ils pouvaient écrire à la craie. Et en fait, ce mur, on s'est rendu compte à quel point c'était pratique, puisque partout en tournée, et on a tourné énormément, il suffit de dresser ce mur et le décor est là, quoi. Mmh. C'est-à-dire que pour les acteurs, le mur est leur repère, donc quelle que soit la taille de la salle, ils n'ont pas besoin de 2 jours de préparation, d'adaptation à la salle, parce que à partir du moment où ils ont ce repère là ils peuvent tourner. Et donc non seulement ça, mais voilà, le mur, les entrées sorties à gauche à droite du mur, ça résout toutes les problématiques. Et derrière ce mur, il y a des vêtements, des costumes, des surprises, des accessoires, tout ça. Donc je l'ai réutilisé, je l'ai réutilisé d'une autre manière pour le cercle, puisque sur le cercle, en plus, j'avais des projections, donc ça me permettait, oui, de projeter dessus, c'était hyper pratique. Mais c'était un mur un peu différent. Et puis sur Edmond, je l'ai réutilisé, puisque c'était encore un mur, mais cette fois-ci, c'est l'autre côté du mur, donc c'est le côté... l'arrière du décor, en fait, l'envers du décor. Et puis à la fin, ce mur dans Edmond devient le plateau sur lequel ils vont jouer la représentation de Cyrano. Et puis là, dans Intramuros, il y aura encore une fois le mur, puisque ça s'appelle quand même Intramuros, ça se passe en prison, mais c'est un mur un peu plus stylisé avec des barreaux qui se passe peut-être quelque chose à la fin. Mais c'est une manière, et les portants, c'est parce qu'ils changent évidemment beaucoup de costumes, donc à chaque fois j'essaie de trouver des portants qui vont avec le spectacle, quoi. Et puis après il y a plein de variantes et des petites surprises, mais là globalement sur Intramuros il y a juste un tapis un peu brookien, donc c'est mon hommage à Brooke. Il y a le musicien qui est à court, c'est mon hommage à Mnouchkine avec Jean-Claude Lemaître, Jean-Jacques Lemaître, qui est sur scène à court. Et puis à part ça, c'est très épuré comme scène, c'est très simple, puisque c'est vraiment sur l'acteur. Mais ça dépend du spectacle. Ça se trouve, il y aura un jour un spectacle où je vous changerai complètement. En fait, là, ma vraie problématique, c'est que les 4 spectacles ont une narration avec beaucoup de décors, beaucoup de scènes et beaucoup de sauts temporels. Et quand on a tout ça, c'est difficile de faire un décor
figé,
en dur ou riche, trop riche, parce qu'il faut que j'ai la possibilité de créer plusieurs espaces très rapidement, en un rien de temps, avec un peu de lumière, avec un petit changement, avec de la musique, avec tout ça. Et pour que l'imaginaire du spectateur puisse fonctionner à plein, il faut une certaine épure, quoi. Donc si jamais demain je fais un spectacle qui se passe entièrement dans une école maternelle, je peux faire un décor d'école maternelle. S'il y a 80 scènes, c'est pas possible de faire. Donc à chaque fois, il faut chercher des solutions, quoi. Edmond, on a eu la chance d'avoir des cintres, on avait la chance d'avoir plus de monde sur scène pour manipuler les décors. Donc il y a plus de décors, il y a des surprises, quoi. C'est un spectacle. Mais ça reste, il y a beaucoup de moments dans Edmond où c'est épuré, quoi. La scène est très épurée.
Alors, si vous n'aviez pas encore songé à votre prochain spectacle, je peux vous mettre sur la voie, ou en tout cas vous donner une idée. sous forme de questions. Vous avez déjà pensé à la comédie musicale?
Bah, non seulement j'ai déjà pensé, mais j'ai déjà monté une comédie musicale. D'accord. C'était La Mégère à peu près apprivoisée, et qu'on a joué 300 fois, qu'on a joué au Splendide en 2009, dans lequel à l'époque je jouais, qui était une adaptation de Shakespeare en comédie musicale. Mais moi je suis un passionné de comédie musicale, donc je suis vraiment un gros amateur de comédie musicale, et ça fait partie de mes projets de monter une comédie musicale. Et il y en a eu plusieurs où on se renseigne, on essaie de voir si les droits sont libres, si ceci, si cela, ou est-ce que je monterai moi-même. Mais c'est sûr que ça va arriver un jour.
D'accord, je vous recommande...
Alors vous avez laquelle en tête?
Quelque chose qui n'en est pas une, mais qui pourtant, quand j'ai vu le film, m'a semblé de manière assez évidente pouvoir être adapté en comédie musicale. Ouais. C'est un film que j'ai vu l'année dernière qui s'appelle Sing Street.
Ah oui, Sing Street, ouais. Ouais, j'ai pas vu, on a parlé dessus.
Absolument génial.
Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est quoi l'histoire?
Oh, ce sont des jeunes qui habitent en Irlande, à Dublin, dans un Dublin un peu tristouille du début des années 80, et qui vont se mettre à rêver d'une carrière
dans musicale. Ah oui, comme ça, voilà. C'est ça. Et ils font des clips vidéo.
Oui, ils s'amusent un petit peu à créer, et puis ils sont très influencés par... un bouillonnement artistique de cette époque-là, et ils découvrent Duran Duran, Spandau Ballet, The Cure à la télé, et puis ils trouvent ça absolument fascinant, et ils se prennent à rêver qu'eux aussi, à leur tour, et je trouve qu'il y a un côté pour moi assez évident, je soupçonne même le metteur en scène d'en avoir joué quand il a créé son film, d'être allé sur ce terrain-là. Fermons la parenthèse. Pour terminer cette interview, donc Intramuros sera donné à la Pépinière.
Absolument, ouais, à partir du 14 septembre.
D'accord.
Et on espère pour longtemps. Et voilà, avant ça, il aura voyagé à La Réunion, à Avignon, et il se pose à la Pépinière, et du mardi au samedi à 21h et le samedi à 16h.
Génial, ben on ira vous voir avec grand plaisir. Merci Alexis.
Merci beaucoup.
À bientôt.